Zivilgesellschaft engagiert sich für Flüchtlingen zu Lützburg. Darüber geht jetzt Mottenzo an Wittien vom Dach, der Künstlerin und Enseignant Carolina Markiewicz, aber der Koordinatrice von der SBL Passerelle, der Cassie Adelaide, die sich um Terra engagieren, für Flüchtlingen zu helfen. Wegen sie sieht die europäische und Lützburger Flüchtlingspolitik mit Entringer für das Gespräch.
Il y a trois jours, le Luxembourg a accueilli 15 migrants ayant été à bord du navire Lifeline accosté à Malte le 27 juin, après avoir été bloqué devant les côtes européennes parce que l'Europe n'en voulait pas. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Les pays européens de l'Est, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne et la France aussi, et dans tous ces pays européens et dans d'autres aussi, l'attitude du monde politique et de la population envers les milliers de personnes fuyant guerre, persécution, misère et famine a basculé. Les gens qui aident sont criminalisés. Le Luxembourg semble à l'abri de tout cela. Est-ce que vous voyez ça comme ça? Et si c'est comme ça, quelle est la raison? Est-ce qu'au Luxembourg, le Luxembourg garde ses frontières ouvertes et reste accueillant? Peut-être Cassie Adelaide en première.
Peut-être un des premiers éléments, c'est que le Luxembourg est moins exposé que, par exemple, des pays comme l'Italie, comme l'Espagne. Et donc, malgré un nombre d'arrivées qui fait que c'est assez considérable par rapport au nombre d'habitants. Néanmoins, on est moins exposé que les pays primo-arrivants.
Donc il n'y a pas de frontière avec une mer où on pourrait accueillir, et le Luxembourg est riche aussi. Ce qui peut faire une différence dans l'accueil.
Ce qui est très très flagrant par rapport à la France où les personnes sont vraiment laissées à la rue, où seulement peut-être 30% des demandeurs d'asile reçoivent une solution d'hébergement et pas du tout stable. Là, le Luxembourg, heureusement, ne laisse personne à la rue, sauf situation très marginale.
Caroline Markiewicz, comment est-ce que vous analysez cette attitude d'accueil du Luxembourg? Est-ce qu'elle est réelle et quelle en est la cause?
Alors, elle est compliquée, mais elle est réelle, effectivement. Elle n'est pas idéale, mais elle est réelle. Je parlerai de ce que je connais, donc du secteur éducatif, hein, de l'école. Donc, les primo-arrivants sont intégrés réellement par le biais de la langue française. Peut-être que ce n'est pas idéal, mais ça fonctionne. Donc, voilà. Et puis, on a quand même des politiciens, notamment Jean Hasselborn, qui montre quand même depuis des semaines, depuis des mois, qu'il résiste justement à la vague populiste, voire la vague d'extrême droite un peu partout en Europe. Et oui, le Luxembourg est plus riche, donc il peut se le permettre d'accueillir 15 personnes. Qu'est-ce que c'est, 15 personnes, finalement, pour notre société ici, c'est faisable. Et je pense qu'il faudrait en accueillir davantage, mais effectivement, c'est un problème européen à régler. C'est une question d'ordre politique à l'échelle européenne qui ne se règle pas visiblement aussi simplement que ça.
Et on a vu lors du dernier sommet européen que justement, on n'arrive pas d'avoir un dénominateur commun, d'avoir une politique d'accueil européenne commune, mais juste au contraire que les frontières se ferment, les ressources mises à disposition du système Frontex vont s'accentuant. Il y a moins de réfugiés qui traversent aussi la Méditerranée, il y a moins de réfugiés qui viennent en Europe. Vous avez parlé de chiffres. L'année dernière, à peu près 2000 personnes sont venues au Luxembourg. Les années d'avant, c'était un peu plus, mais les chiffres descendent. Comment est-ce que vous expliquez ce refermement de l'Europe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas une société civile qui fait un contrepoids à cela? Et on a une société civile ou une opinion publique plutôt de droite qui justement alimente aussi ce revirement. Qu'est-ce qui se passe en Europe dans les populations? Cassie Adlaï.
Oui, alors, peut-être sur...
Comment Comment est-ce que vous expliquez que cette droite est en train de monter dans l'opinion publique et qu'elle s'est récupérée par la politique? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des mouvements de l'autre côté, comme vous, un mouvement plus grand de citoyens engagés?
Alors, il y a de plus en plus de mouvements de citoyens engagés. J'ai l'impression qu'effectivement, les choses se réveillent de nouveau, qu'on s'était un peu endormi et qu'il faut effectivement rester toujours vigilant. La démocratie, les normes, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre systématiquement ou retransmettre systématiquement. J'ai toujours ce besoin de citer en ce moment Hannah Arendt, les origines du totalitarisme. Il ne faut pas être un nazi ou un communiste convaincu pour croire à la loi du totalitarisme. Il faut tout simplement accepter qu'il n'y ait plus de distinction entre fait et fiction, qu'il n'y ait plus de distinction entre vrai et faux. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années, et assez rapidement, pas seulement en Europe, ça vient des États-Unis, effectivement, quelque part, Donald Trump donne le là, et puis beaucoup suivent. Il y a déjà eu, Viktor Orban, il y a déjà eu, effectivement, des populistes à droite et à gauche dans les pays, je veux dire, et maintenant, ça bascule assez rapidement. Mais il y a une organisation de plus en plus visible de la part de la société civile, elle est importante.
Justement, Karolina Markiewicz, vous êtes artiste et enseignante, et dans les deux domaines, vous vous engagez, vous travaillez avec des réfugiés. Vous êtes réalisatrice, entre autres, du projet Mostellarium, un documentaire réalisé ensemble avec Pascal Piron, racontant l'histoire de réfugiés vivant entre le Luxembourg et le Monténégro. Vous travaillez depuis de nombreuses années dans des classes d'accueil de réfugiés. Vous-même, vous venez d'une famille de réfugiés et vous venez de lancer ensemble avec d'autres personnes engagées l'initiative citoyenne européenne opendiscussion.eu, une plateforme pour la société civile qui se veut participer davantage au discours sur les questions d'asile migratoire et d'intégration. Qu'est-ce que vous revendiquez avec cette plateforme?
Alors c'est déjà tout d'abord une tribune. Il fallait donner quelque part, rappeler les fondamentaux. Auxquels maintenant près de 900 personnes adhèrent ou co-signent, et notamment avec des experts, mais aussi beaucoup d'artistes européens. Et dans un second temps, on est en train d'organiser ça en partant du lycée technique du centre et notamment de l'annexe, des rencontres pour jeunes. Qui viennent de la société luxembourgeoise avec un background de migration ou même des réfugiés, qui rencontreront des experts, notamment le docteur Raphaël Pitti, Yves Pascuot, mais aussi des témoins et des artistes, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir poser les questions et avoir des réponses. Parce que c'est ça qui manque. Il y a un flou total et il y a une polarisation. Et la question de la migration est récupérée par beaucoup de politiques, aussi récupérée dans la société civile. On n'en parle pas, on détourne les faits et il semble vraiment urgent de donner des bribes de réponses claires, nettes, des faits, des vérités. Voilà.
Cassie Adlaïde, vous venez du secteur financier. Vous êtes aujourd'hui coordinatrice de l'ASBL Passerelle qui soutient des réfugiés dans leur démarche administrative et juridique, dans leur procédure d'asile et de recours. Un projet financé par l'œuvre Grande-Duchesse Charlotte. Cassie Adlaïde, pourquoi est-ce que vous vous êtes engagée?
Oui, alors les projets de passerelle, il y a des projets de socialisation qui sont financés par l'œuvre Grande-Duchesse Charlotte. Le projet Pink Paper, qui est une cellule de veille et d'action juridique en matière d'asile, est toujours en recherche de financement. Voilà. Pourquoi on s'est engagé? Parce que c'était ça en tant que citoyen. Là, j'étais dans le secteur financier, en effet, et on voit les choses se passer. Et en tant que citoyenne, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les manières de s'engager? Et alors, c'est facile de juste critiquer critiquer, de reprocher aux politiques et aux journalistes de faire un travail peut-être contestable. Voilà, c'est la facilité. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que citoyens? Et je pense qu'il faut s'engager sur ces questions-là. Donc oui, le débat, c'est pour ça que c'est nécessaire de le lancer. Parce que quand on parle avec les gens, quand on parle de récits réels, quand on parle de réalité, ben, tout d'un coup, le discours sur les migrants, il change. Là, on ne parle plus de chiffres, de quantité de personnes. Ah ben, où on arrête d'analyser la question d'un pur point de vue. Ah, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est une évidence, ce n'est pas une solution, ni pour les pays, ni pour nous, ni pour les pays de départ. Donc, mais comment on règle comment on peut réfléchir à chercher des solutions? Quelles sont les causes de départ? C'est comme ça qu'il faut se questionner. Arrêter de parler de l'Afrique comme si c'était un seul pays, c'est énorme, c'est très large, le continent africain, et les situations sont très diverses entre la Guinée-Conakry, le Soudan, le Maroc, et j'espère que les citoyens ne se contentent pas de traiter la question migratoire comme un problème européen, mais se renseigne et se questionne sur ces questions.
Mais si on regarde l'Afrique aujourd'hui, vous venez de le dire, c'est un problème extrêmement complexe avec beaucoup de causes qui emmènent les peuples à fuir et à migrer vers l'Europe. Peut-être aussi, à part maintenant le monde politique européen, aussi les populations européennes se sont dépassées par cette énormité et ne savent pas comment agir, et c'est la peur qui s'installe. Est-ce que cette peur, elle est, selon vous, compréhensible?
Bah, la peur, ce qu'il y a, c'est qu'on constate avant tout un décalage entre l'afflux qu'il y a eu après l'été 2015 et les chiffres auxquels on assiste maintenant. Et c'est dans ce contexte de baisse des flux qu'on a la crise politique qu'on a eue en Europe. Donc il y a un décalage entre effectivement les croyances et la réalité. C'est là qu'il faut remettre effectivement du discours, de la compréhension des valeurs européennes. Et c'est ça que c'était l'enjeu de juin, et c'est dommage qu'on soit passé à côté.
En 2015, avec l'arrivée plus importante des réfugiés, il y avait un engouement au Luxembourg aussi de la société civile, de personnes privées pour s'engager, pour aider, pour vider les armoires, mettre des vêtements à disposition, faire le tri, accueillir les gens. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que cet intérêt pour les réfugiés au Luxembourg, pour l'aide de l'opinion publique, a changé?
Moi, j'ai pas l'impression que ça a changé. Je pense qu'elle est constante, cette notion, cette solidarité, qui n'est pas seulement qu'une notion, elle est plus complexe. On veut comprendre aussi, dans un second temps, ce qu'il va, qui se pose et qui est aussi récupéré par nombre de courants populistes. Parce que non, ça ne passe pas forcément par la langue luxembourgeoise, mais voilà, les questions se posent, la solidarité existe. Maintenant aussi, par exemple, dans le milieu des artistes, que ce soit à Luxembourg ou européen, on s'intéresse beaucoup plus, sans vouloir récupérer forcément ce sujet. On se dit effectivement que l'art est une réponse quelque part à la réalité. C'est ce que nous, on croit avec Pascal Piron. C'est-à-dire que quand on travaille sur des sujets de documentaires ou de films de fiction, on essaye toujours de donner quelque part une réponse à la réalité et de s'intéresser réellement à qu'est-ce qui va devenir maintenant, pas seulement à l'accueil, mais aussi à l'intégration de tous ces gens, parce que ça ne changera pas. L'accueil devra se faire. Et les gens arriveront de toute façon. Il n'y a pas de crise migratoire, mais les gens continueront à arriver de toute façon. Et il va falloir prendre ça en main, réellement, avoir des visions.
En pleine campagne électorale, le Luxembourg se distingue par le fait que les partis politiques n'abusent pas ou très peu de la question des réfugiés, comme on peut le voir notamment en Allemagne. Il y a comme une entente cordiale entre au moins les grands partis de ne pas trop thématiser le sujet. Est-ce que vous partagez cet avis et comment l'expliquez-vous?
Moi, je pense que oui, c'est, euh, c'est dans les normes, on va dire, mais il y a ça et là quand même des discussions. À Luxembourg, on évite toujours de discuter. Ça, c'est aussi un fait. Je pense que sur cette question-là et dans le cadre des élections, c'est peut-être pas plus mal, mais il va falloir en discuter et il va falloir vraiment trouver des solutions concrètes et meilleures.
Tout en disant qu'il y a quand même un parti politique qui a ouvert ses listes pour un mouvement dont des membres sur les réseaux sociaux ont des propos xénophobes et des propos aussi de rejet par rapport aux réfugiés. Je parle du mouvement W2050 et de l'ADR.
Oui, il faut faire attention, il faut être vigilant à tous ces petits mouvements parce qu'ils gonflent. Et effectivement, les gens, oui, c'est aussi le problème de notre interconnectivité qui fait que les gens croient ou qu'on croit tout ce qui peut être lu, même des opinions personnelles de certains politiciens, parce que ça ne reste que des opinions, ce ne sont pas des vérités. Il n'y a pas de crise migratoire avérée, actuelle, mais il y a une crise plutôt de la représentativité politique et de nos notions.
Dans les médias et dans le discours politique, on entend actuellement très peu parler de centres d'accueil bondés, de manque de places, de retour de réfugiés, comme si le sujet avait disparu, on en a parlé. Qu'en est-il de la réalité, Cassie Adelaïde? Qu'est-ce que vous savez en travaillant avec les réfugiés, des gens qui sont en procédure, qu'est-ce qu'ils vous racontent sur leurs conditions d'encadrement et d'intégration?
Il y a une priorité, oui, qui est très axée politiquement sur, je ne parle pas que à Luxembourg, là, mais sur le retour. Comment on... Parce que sur les demandeurs d'asile, il y a peut-être... Alors là, les taux, ils sont peut-être à 30 à 40% de reconnaissance du statut. Donc là, l'effort d'intégration, il doit être fait pour les personnes qui doivent rester. Et quelle est la question pour les autres demandeurs d'asile, les migrants dits économiques? Et donc, c'est très difficile de faire la distinction. Et que vont devenir les autres? Et il y a peut-être une pratique qui disent, bon, bah, pourquoi on investirait sur des personnes qui sont vouées à l'expulsion? Et l'expulsion, comment elle est organisée? Et pour obtenir des retours réussis, quelle politique on peut mettre en œuvre? Et ça, c'est quelque chose qui est structurellement ou peut-être assez négligé, qu'il faut vraiment investir aussi sur ces questions-là, plutôt qu'empêcher les gens de venir traiter les causes, pourquoi les personnes partent, mais aussi comment aboutir à des retours réussis. Voilà, traiter vraiment le fond des questions.
Et des procédures rapides.
Et les procédures rapides, alors oui, bon, de la pratique depuis 2 ans, il y a eu un effort qui est fait, et on le voit aujourd'hui en pratique, les convocations pour les entretiens, pour la demande de protection internationale arrivent plus vite qu'avant. Donc oui, on souhaite qu'il y ait toujours des améliorations, mais on a vu des progrès.
À la fin de cet entretien, dernière question à vous deux. Que faudrait-il faire davantage? Peut-être un appel à la société civile ou aux politiques. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait en tant qu'attitude ou moyen? Cassie Adelaïde.
Je pense que les deux sont très liés. Il faut que, avant de critiquer ces politiques, il faut évidemment s'engager. Et on a les politiques qu'on mérite ou qu'on méritera. Et du coup, c'est à chacun de se saisir de ces questions-là, d'avoir des réalités dans la tête avant d'aller demander des comptes, je pense.
Carolina Markiewicz.
Pour moi, je pense qu'il faut effectivement, comme le dit Cassie, s'engager, pas forcément en politique, mais essayer de réfléchir et d'avoir des discussions ou des échanges dépassionnés. Et essayer de comprendre, encore une fois, les faits et les vérités, avoir les chiffres en main, regarder les choses telles qu'elles sont et essayer d'avoir des visions ensemble, ne serait-ce que pour les générations à venir.
Merci beaucoup.
Merci
pour cet
vous.
Entretien.
Merci.
An die Künstlerin und Enseignante Carolina Markiewicz und Koordinatrice von der SBL Passerelle, Cassie Adelaïde, am Gespräch mit Mick Entringer.